Laudetur Jesus Christus.
Un accord à l'arraché a été conclu ce matin entre Bruxelles et Londres. L'annonce a été faite par le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Le premier ministre britannique, Boris Johnson, l'a qualifié d'excellent. Les unionistes nord-irlandais y sont eux opposés. Éclairage juste après les titres. Visite à Ankara de deux poids lourds de l'administration américaine, le vice-président Mike Pence et le chef de la diplomatie Mike Pompeo. Ils doivent obtenir un cessez-le-feu du président turc une semaine après le début des opérations militaire contre les forces kurdes dans le nord de la Syrie. La grogne ne faiblit pas en Catalogne. Après une troisième nuit de violence, les indépendantistes catalans poursuivent ce jeudi leur mobilisation contre la condamnation de leurs dirigeants par la justice espagnole. Quelles peuvent être les conséquences des émeutes ? Analyse dans quelques instants. Et puis en cette journée mondiale du refus de la misère, gros plan sur les situations d'extrême pauvreté et leurs implications avec Jean Tonglet d'ATD Quart-Monde.
Le journal Hélène Destombes.
Bonsoir. Les négociateurs britanniques et européens ont donc annoncé la conclusion d'un nouvel accord de sortie pour le Royaume-Uni. Un accord rendu possible par des concessions des deux parties. Ce résultat a été salué comme un bon compromis par les chefs d'État et de gouvernement de l'UE réunis à Bruxelles. La présentation de ce texte lors du sommet n'est qu'une étape car il va y avoir maintenant des obstacles plus ou moins importants à franchir. Les explications de Pierre Benazé.
Les États devront donner leur onction à la fin de la procédure, car il doit y avoir d'abord et avant tout les ratifications. Les 28 feront ce qui est en leur pouvoir pour convaincre le Parlement européen de ratifier, mais tous les yeux sont en fait tournés vers la Chambre des communes. Les 28 affirment que Boris Johnson les a assurés de sa capacité à y rassembler une majorité, mais beaucoup pointent qu'il n'y dispose même pas de majorité, contrairement à Theresa May, qui a tout de même échoué par trois fois à faire adopter le premier accord. Surtout, son alliance avec les unionistes nord-irlandais du DUP les inquiète, car le nouveau filet de sécurité pour l'Irlande contient autant de concessions britanniques que de concessions européennes. Les Européens savent que le maintien de règlements de l'UE pour les marchandises ou la TVA risque de provoquer une levée de boucliers, tout comme la création d'une frontière maritime virtuelle au beau milieu du Royaume-Uni entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Le président de la Commission européenne a prévenu qu'il n'y aurait pas de nouveau report de la date du Brexit, façon peut-être de tenter d'éviter une contagion à la Chambre des communes des doutes exprimés en Irlande du Nord. Et les Européens croisent les doigts pour que ce qui n'est pour le moment qu'un simple texte puisse effectivement devenir un accord. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
Et le Premier ministre Boris Johnson, le Premier ministre britannique, a appelé les députés britanniques à approuver le texte lors d'une séance parlementaire exceptionnelle prévue samedi. Il devra compter, semble-t-il, sans le soutien du parti unioniste nord-irlandais qui s'est dit opposé à l'accord. Le président syrien Bachar al-Assad dénonce l'agression de la Turquie dans le nord de la Syrie et annonce qu'il y répondra par tous les moyens légitimes. Il s'exprimait alors que deux émissaires de Donald Trump sont aujourd'hui à Ankara. Le vice-président américain Mike Pence et le chef de la diplomatie Mike Pompeo rencontrent en ce moment même le président turc. Leur objectif, convaincre Recep Tayyip Erdogan d'obtenir des concessions et si possible de décréter un cessez-le-feu en Syrie. Les précisions d'un Andlauer.
Mike Pence et Recep Tayyip Erdogan se sont entretenus pendant plus d'une heure et vingt minutes avant d'être rejoints par les autres officiels turcs et américains, dont le chef de la diplomatie Mike Pompeo. C'est beaucoup plus que les 10 minutes de tête-à-tête initialement prévues entre les deux hommes. La rencontre n'a pas commencé sous les meilleurs auspices. Mike Pence et Recep Tayyip Erdogan sont apparus très tendus lors de leur poignée de main devant les caméras, aucun des deux ne faisant l'effort d'esquisser un sourire. À l'évidence, l'américain Mike Pence est arrivé à Ankara avec la mission non pas d'écouter mais de proposer un plan à Tayyip Erdogan pour qu'il cesse son opération, faute de quoi les États-Unis infligeront à la Turquie des sanctions bien plus lourdes que celles décrétées jusqu'ici. Mais Recep Tayyip Erdogan est déterminé à poursuivre son offensive, du moins est-ce le message qu'il envoie à son opinion. La reddition des forces kurdes, leur désarmement et leur départ du nord de la Syrie, c'est ce que réclame le président turc. Et il est d'autant moins enclin à faire des concessions qu'au réveil ce jeudi matin, les Turcs ont pris connaissance d'une lettre surréaliste envoyée le 9 octobre par Donald Trump à leur président. Une lettre dans laquelle il l'appelait à ne pas faire l'idiot en Syrie. Selon certains observateurs, le tollé provoqué par la publication de cette lettre ne laisse d'autre choix à Tayyip Erdogan que de rejeter d'emblée les appels au cessez-le-feu. À Istanbul, un endroit pour Radio Vatican.
Les autorités kurdes en Syrie ont dénoncé l'utilisation par la Turquie d'armes non conventionnelles. Elles ont réclamé un couloir humanitaire pour évacuer les civils et les blessés de la ville de Ras Alain, encerclée par les forces turques. Cette offensive turque contre la milice kurde des unités de protection du peuple dans le nord de la Syrie fait craindre la fuite de djihadistes étrangers détenus par les Kurdes en Syrie. C'est pour discuter de cette question grave et extrêmement délicate que le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, s'est rendu aujourd'hui à Bagdad. Il a rencontré son homologue irakien et le Premier ministre Adel Abdel Mahdi pour réfléchir à la manière de mettre en œuvre un mécanisme juridictionnel adapté pour juger dans les meilleures conditions ces combattants, parmi eux quelques 60 Français détenus dans le nord-est de la Syrie. La Catalogne sous les barricades et jets de cocktails Molotov. Depuis 4 jours, les manifestations se succèdent jour et nuit dans la communauté autonome du Royaume d'Espagne. Demain, des milliers de personnes doivent converger vers Barcelone pour un jour de grève générale et de manifestations massives. La contestation s'est radicalisée depuis lundi et cet arrêt rendu par la Cour suprême condamnant 9 indépendantistes. Hubert Pérez est spécialiste de l'Espagne contemporaine à l'Université de Montpellier. Il décrypte les conséquences politiques de ces émeutes sur l'autonomie même de la région.
Les partis de la droite espagnole, en tout cas les plus anti-indépendantistes, demandent de nouveau à Pedro Sanchez l'application de l'article 155 de la Constitution, destituer le gouvernement catalan actuel et de reprendre directement les rênes de l'exécutif catalan passant par le pouvoir central de Madrid. Pedro Sanchez n'est certainement pas aujourd'hui prêt à le faire, mais il ne l'écarte pas. Il y a un chaos généralisé s'installer, c'est une hypothèse qu'il ne faut pas écarter et Pedro Sanchez ne l'écarte pas. Il y a un mouvement qui s'autoproclame tsunami démocratique, qui s'est créé, qui organise une partie de ces manifestations avec une application qui lui est dédiée. Donc tout ça a été très organisé. Du coup, de l'autre côté, la police et les pouvoirs publics se sont également préparés à répondre à ces événements. Mais on voit dans les actes de violence qui ont été commis qu'à l'intérieur de ce mouvement indépendantiste radicalisé, il y a des gens qui n'hésitent plus maintenant dans des actions directement violentes, en brûlant, en pillant, etc. Alors tout le mouvement n'est pas d'accord avec ça. Les leaders qui sont emprisonnés actuellement et qui ont été condamnés à des jours de peine de prison, on dit qu'il désavouait cette violence. Il n'empêche que dans tout mouvement qui est un mouvement exaspéré, vous avez des tendances qui vont beaucoup, beaucoup plus loin que ce que la majorité est prête à accepter.
Des propos recueillis par Delphine Allaire. Les manifestations se poursuivent à Hong Kong en faveur des réformes démocratiques et 4 mois après les débuts de mouvements de contestation, la chef de l'exécutif Carrie Lam apparaît de plus en plus affaiblie. Elle a de nouveau été prise à partie au Parlement par des élus pro-démocratie. La rentrée du Conseil législatif hier s'était déjà déroulée dans un climat extrêmement tendu. Carrie Lam a dû renoncer à prononcer son discours de politique générale. La lutte contre la pauvreté est un combat de chaque jour. C'est le message que transmettent de nombreuses ONG en cette journée mondiale du refus de la misère. En France, le taux de pauvreté a augmenté de 0,6 points en 2018, atteignant 14,7% de la population française selon l'INSEE. Des chiffres obtenus à partir de données économiques comparant le niveau de vie des individus, mais qui ne sont pas représentatifs des situations de pauvreté. L'organisme ATD Quart Monde propose une nouvelle définition de la pauvreté élaborée avec des personnes concernées par l'exclusion. Il s'agit notamment de placer au centre la dignité des personnes. C'est ce que nous explique Jean Tonglet, responsable des relations internationales d'ATD Quart Monde.
La situation des très pauvres dans le monde ne s'améliore pas. Elle reste extrêmement difficile parce qu'on a toujours des jugements sur ces personnes. On les connaît mal, le rejet, la honte, la difficulté à vivre, à scolariser ses enfants, à pouvoir élever soi-même ses enfants, perdure. On a fait ces dernières années avec le mouvement ATD Quart Monde une étude en partenariat avec l'université d'Oxford pour mesurer ce qu'on appelle les dimensions cachées de la pauvreté. Avec des personnes qui vivent elles-mêmes dans la grande pauvreté, elles ont des appréciations qui sont très différentes des seuls critères monétaires. Et le principal critère que les personnes indiquent, c'est le respect de la dignité. Les gens nous disent, mais on peut manquer de travail, on peut manquer de logement, mais être considéré et traité comme un moins que rien, qui ne pense pas, qui n'a pas de contribution à donner à la société, à qui on ne demande jamais rien. Le pire, c'est de ne pas être considéré comme un citoyen à part entière, comme des gens inutiles finalement, des gens que la société a l'impression de traîner derrière elle comme un boulet, qui est invivable pour ceux qui vivent cette situation.
des propos recueillis par Cécile Mérieux.